Christophe Bass, rebonjour. Rebonjour Christophe Bass, mandataire et administrateur judiciaire. Alors on va démarrer cet exercice par vous demander de nous décrire votre métier, parce qu'il fait peur. On s'est déjà entretenu tous les deux, vous êtes un invité récurrent de cette séquence mandataire, administrateur, judiciaire, ça fait peur. Pitchez-nous vous aussi votre métier et dites-nous ce qui vous fait vibrer dans ce que vous faites.
Eh bien, c'est un très beau métier. Peut-être que ça surprendra, c'est un très beau métier. Administrateur et mandataire judiciaire, c'est une exception européenne. Il n'y a qu'en France que ce métier existe, un métier dédié aux entreprises en difficulté. Donc des praticiens, administrateurs et mandataires formés, contrôlés exclusivement pour ce type de métier. Et c'est un métier passionnant, Lorraine, parce que c'est un métier où tous les jours, vous avez des cas d'entreprises très différentes. Un boulanger le matin, une entreprise, une pharmacie l'après-midi, une société sportive, une association, une SCI, et avec la boîte à outils, la palette de solutions législatives que nous avons, eh bien, nous essayons de trouver des solutions pour sauvegarder l'emploi et permettre aux créanciers d'être réglés. Voilà, un métier passionnant.
Sauvegarder l'emploi, c'est une bien belle mission. Alors, il y a plein de préjugés qu'on va essayer de combattre pendant le quart d'heure. Vous avez des réactions, vous avez des questions, vous nous les adressez en direct. D'abord, on a cette question d'Erwan qui nous dit « Depuis le Covid, il y a beaucoup moins d'entreprises en liquidation judiciaire ». Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Comment ça s'explique ? Donnez-nous quelques chiffres, expliquez-nous ce qui va nous sembler peut-être un paradoxe.
Erwan a raison, en 2018-2019, il y avait environ 50 à 55 000 procédures collectives par an. Arrive le Covid, donc début 2020, et on va tomber en 2020-2021 aux alentours de 25 à 30 000 procédures collectives par an. Ça peut paraître très surprenant, et on a beaucoup parlé de vagues, de faillites, de tsunami, et ça a été exactement l'effet contraire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des aides d'État extrêmement importantes, je pense aux prêts garantis par l'État, le PGE, hein, plus de 150 milliards ont été injectés par les banques dans les entreprises françaises avec la garantie de l'État derrière ces crédits. Il y a eu des aides de chômage partiel et autres. Ce qui fait que les entreprises qui connaissaient peut-être quelques difficultés ont vu cet apport de trésorerie arriver, ces aides d'État massives arriver. Et donc, mécaniquement, le nombre de faillites a fortement diminué pendant toutes les années Covid.
En 2022, on compte presque 30 000 liquidations judiciaires, un petit peu moins de 8 000 redressement judiciaire. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous décrire la différence entre une liquidation, on plie, on termine, on ferme, et un redressement ?
Bien, c'est exactement ça. La liquidation, c'est la fin d'une aventure, la fin d'une entreprise. L'activité s'arrête, il n'y a plus aucune poursuite d'activité, et donc on ferme, on vend, on rend liquide. Le redressement, comme ce dont l'a dit, le redressement ou la sauvegarde, hein, ce sont les deux mots qui sont employés, ce sont des procédures, au contraire, qui vont observer l'entreprise pour essayer de trouver une solution de remboursement des créanciers dans des délais qui ne peuvent dépasser 10 ans. Voilà, donc en redressement, l'activité continue, on cherche une solution de paiement, en liquidation, on passe à autre chose.
Annalisa, notre productrice, nous envoie un chiffre, hein, pour ceux qui nous suivent en images, c'est 700 000, c'est 700 000 entreprises qui ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État depuis 2020. 700 000, 800 000, on trouve un peu des chiffres approximatifs. Vous diriez quoi, vous ?
Alors, sur les éléments qui nous sont communiqués donc par Bercy, hein, par le ministère de l'Économie et des Finances, on est à plus de 800 000 prêts garantis par l'État qui ont été accordés pour environ, effectivement, 150 milliards d'euros.
150 milliards d'euros. 150 milliards. Dire ces chiffres. Hein.
Ouais. Ah oui, 150 milliards d'euros. Beaucoup de toutes petites entreprises, hein, qui ont été aidées. Et pour ces petites entreprises, c'était aussi par ces prêts garantis par l'État, pour la première fois, la possibilité d'avoir accès au crédit sans avoir une caution personnelle. Et donc, pour les entreprises, la possibilité de se recréer avec l'effet Covid, de trouver des solutions pour essayer de pallier donc ces difficultés liées à la crise sanitaire.
Alors, vous avez connu des difficultés. Certains d'entre vous nous ont écrit. Et puis, il y a beaucoup de questionnements sur le dispositif de ces procédures collectives. D'abord, Jean-Louis nous demande si elles sont efficaces. Alors, par procédure collective, on rappelle, hein, on veut dire la liquidation, on veut dire le redressement judiciaire. Est-ce que vous avez de quoi illustrer le fait que ces procédures, elles permettent de sauvegarder de l'emploi ? C'est la question de Jean-Louis qui nous a écrit avec vous à bfmbusiness.fr.
Alors, pour répondre à Jean-Louis, il faudrait regarder aussi comment cela fonctionne dans nos pays voisins. Et il y a plusieurs études, dont une récente en 2021, qui a comparé la performance des procédures collectives dans 6 pays en Europe, les pays les plus importants. Et la France se place de manière vraiment en tête en performance, que ce soit en coût de procédure, que ce soit en sauvegarde de l'emploi, ouais, que ce soit en taux de recouvrement des créances. et même les délais et la durée des procédures. Tous ces chiffres montrent que les procédures collectives à la française permettent de sauvegarder l'emploi. En France, 70% de l'emploi est sauvegardé. Ça concerne quand même, Lorraine, chaque année à peu près 250 000 emplois. Hein.
250 000 personnes, on peut aussi le dire comme ça.
250 000 ménages. Ouais. Ménages, absolument. 70% de l'emploi va être préservé par nos procédures collectives. Dans un pays très voisin, frontière avec le nôtre, c'est moins de 10%. Donc on voit vraiment qu'on a un système qui permet aux chefs d'entreprise, à l'entreprise, de se recréer, de se renouveler. Certes, avec un effort qui est imposé auprès des créanciers, mais en France, ça fonctionne.
En France, ça fonctionne pas trop mal. On salue au passage 60 millions de rebonds, hein, qui est un endroit vers lequel on peut se tourner, une association qui accompagne les gens dans la détresse. Et je vous renvoie aussi au passage sur l'URSSAF, l'URSSAF.com, qui est une plateforme d'open data. On peut trouver plein de chiffres autour de ces histoires de redressement judiciaire, de faillite à jour. C'est des bons outils pour prendre le pouls de notre pays. On va parler de rebonds. On a notamment Alban qui nous écrit « Les procédures de prévention n'ont jamais connu un tel succès en 2022 ». Vous venez de nous le dire. 7500 entreprises en ont bénéficié. Alors pourquoi ces procédures préventives sont désormais privilégiées par les chefs d'entreprise ? Bon, on sent qu'Alban, elle sait de quoi elle parle. Décrivez, vulgarisez-nous un peu ce que nous dit Alban.
Oui, la prévention des entreprises en difficulté, ça a deux noms un peu surprenants, la conciliation et le mandat ad hoc. Ce sont ces deux procédures qui existent et qui ont un mérite et un avantage très important par rapport à la procédure collective, c'est que ces deux procédures de prévention sont confidentielles. Ça permet de préserver tant l'entreprise que les créanciers d'ailleurs qui participent à cette conciliation ou à ce mandat ad hoc. Et donc, les travaux qui sont faits, les échanges, les réchelonnements restent totalement confidentiel, sous l'égide d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc, qui est un administrateur ou un mandataire judiciaire, sous le contrôle du président du tribunal, mais de manière totalement confidentielle. 80% de ces procédures de prévention trouvent une sortie favorable. Donc c'est vrai que c'est un réel succès. Vous l'avez dit, Lorraine, 7500 procédures en 2022, avec des leviers qui sont forts dans la négociation, notamment des leviers aussi liés à peut-être une procédure collective qui pourrait survenir si jamais il n'y avait pas d'accord dans le cadre de cette conciliation. Et donc les créanciers, sérieusement, raisonnablement, se mettent autour de la table pour trouver une solution et ça fonctionne très bien.
Bon, privilégié par les chefs d'entreprise au masculin, au féminin, vous avez vu, c'est Alban qui nous questionne. On va rebondir quand même, on va parler, rebond. Ces chiffres de l'Observatoire du rebond 2021. Concernant les employeurs en faillite, 42% rebondissent dans le salariat, 43% dans l'entrepreneuriat et le reste n'ont pas encore rebondi. Comment on peut commenter ces chiffres ? On est un employeur, on fait faillite. Presque 40% qui part, en fait, trouver un boulot salarié. Qu'est-ce que ça dit ?
Oui, et vous l'avez dit, Lorraine, tout à l'heure, il y a des associations comme 60 000 rebonds qui existent et qui font un travail formidable pour ces chefs d'entreprise qui ont connu la procédure collective et qui veulent rebondir. Il est vrai qu'un chef d'entreprise, quand il arrive dans une procédure de liquidation judiciaire, donc notamment, il ne se paye plus depuis de nombreux mois. Et donc, il va aller chercher par priorité la sécurité de l'emploi, d'où souvent un emploi salarié pour faire face aux échéances de la vie que nous connaissons tous, et donc il va sécuriser une rémunération mensuelle. Et donc beaucoup de chefs d'entreprise rebondissent aussi dans le salariat, mais évidemment ça les pince quand on est chef d'entreprise, quand on crée son entreprise, on a envie d'y revenir. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'incapacité, et donc le temps d'être salarié, souvent pour ces chefs d'entreprise, est un temps normal pour recréer, pour se réinventer et peut-être recréer une entreprise et donc recréer de l'emploi aussi de leur côté.
On a pas mal de commentaires qui tombent en direct, mais on a Karem qui nous écrit « Mon entreprise a survécu grâce au PGE ». Voilà, si vous aussi vous avez survécu grâce au PGE, partagez avec nous comment ça s'est passé. On réinvitera Christophe pour articuler une réflexion sur des cas concrets, mais aussi voilà, sur la situation d'un point de vue un peu plus macroéconomique. On va conclure quand même sur le mot que vous avez prononcé tout à l'heure, confidentialité. confidentialité. On le sait, en France, l'échec est encore vécu comme, pardon, la faillite est encore vécue trop souvent comme un échec. Cette dimension de confidentialité et ce rapport à l'échec, comment vous trouvez qu'il a évolué au fil de votre carrière? Alors, vous n'êtes pas très très vieux, Christophe, mais quand même, si. Vous avez quand même plusieurs années au compteur et beaucoup d'entreprises accompagnées. Comment, là, d'un point de vue un peu philosophique, psychologique, culturel, vous trouvez que ça a changé en France ?
Alors, l'échec en France, on a toujours du mal à le surmonter. Je crois que ça commence dès l'école, avec une notation. On est beaucoup moins à l'aise là-dessus. Et c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, l'échec et le rebond, l'échec est une expérience en soi. L'échec est une valeur qui se rajoute au CV d'une personne. En France, l'échec reste encore très infamant. Et on a beaucoup de mal à combattre cette idée, malgré, encore une fois, ces procédures collectives qui permettent de rebondir. Alors, oui... vous l'avez redit, cette confidentialité permet aussi qu'il n'y ait pas un prisme sur ce chef d'entreprise comme un chef d'entreprise défaillant à la connaissance de tous, à la connaissance de ses voisins. Et donc, ces procédures de prévention qui continuent à se développer, qui continuent à se renforcer, permettent très sereinement à un chef d'entreprise, encore une fois, de manière tout à fait discrète, mais officielle, officielle avec... un conciliateur avec ses créanciers, de ne pas perturber l'écosystème de l'entreprise et de trouver une solution, encore une fois, en ton de confidentialité. Et vraiment, on est très attaché à cette confidentialité. C'est une confidentialité, pour tout vous dire, Lorraine, qui touche même les médias que vous êtes. Oui. Il y a beaucoup de très grosses entreprises aujourd'hui qui font l'objet de procédures de prévention. On ne le sait pas, elles vont s'en sortir et c'est tant mieux ainsi.
Merci beaucoup Christophe Basse, mandataire et administrateur judiciaire, d'avoir été avec nous pour répondre à vos questions, auditeurs. Alors, comme nos auditeurs, nos auditrices, vous avez une question, une réflexion, vous nous l'adressez sur les réseaux sociaux ou à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. J'y réponds tous les matins dans Good Morning Business à 6h40, 7h40, si vous êtes matinale, mais aussi en direct à la mi-journée, c'est 13h en direct, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook, et évidemment, tous nos différents canaux classiques, radio et TV, parce qu'il y a encore des gens qui nous écoutent à la radio et à la télé.